Bonsoir à toutes et à tous. Ravie de vous retrouver. On est ensemble jusqu'à 22h. Chaque soir, on fait entendre ceux qui créent par les temps qui courent. L'émission est préparée avec Jeanne Aléos, Corinne Amar, Romain de Bec-de-Lièvre et Lise-Marie Barré, qui la réalise ce soir aux manettes. C'est Valérie Lavalard. Par les temps qui courent, Marie Richaud. Ce soir, avec Chloé Moulia. Dans le ciel blanc d'une ville, une ligne d'acier dessine une spirale. À chacun des virages, dans ou sur la courbe, une femme est suspendue. Comme la spirale est imposante, ce sont plusieurs femmes que l'on observe se hisser, se laisser doucement choir, bouger dans le vide, ralentir jusqu'au moindre mouvement et faire que l'on doute parfois de voir les corps voler. Dans le ciel bleu d'un rocher, cette fois, c'est au bout d'une perche qu'une femme se suspend. Les mouvements imprimés au corps sont lents, toujours. Peut-être évolue-t-elle dans une eau que l'on ne voit pas. Peut-être qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur pour celle qui se tient à plusieurs mètres du sol. Et dans le noir d'un théâtre, maintenant, une femme surgit derrière un tableau d'école. Elle y a écrit des deux mains en même temps le mot « risque » et le mot « danger ». Et c'est au-dessus de ces mots-là, au-dessus du précipice qu'ils ouvrent, que vous nous parlez, Chloé Moulia, de notre porte du vide et autant de notre puissance d'imagination. Vos spectacles « L'Aspire », « Opus Corpus », « Risicone », « Horizon » tournent en France. Bonsoir et merci beaucoup d'être là.
Bonsoir.
Je n'ai pas dit que vous étiez acrobate, je n'ai pas dit que vous faisiez un travail, comme on dit, de suspension, je n'ai pas dit que votre pratique avait à voir avec le cirque, parce que je ne sais pas si c'est comme ça que vous vous définissez.
Peut-être je ne me définis pas, en fait, là-dessus. C'est vrai que j'ai beaucoup observé les feuilles des arbres, là, et je me suis dit que finalement, peut-être c'était plutôt le travail d'une feuille qui essaye de repousser l'automne. Donc c'est vrai que je suis passée par le cirque, et c'est un très chouette passage pour pouvoir se suspendre en l'air. Mais avant ça, je suis passée en étant enfant par le fait de grimper aux arbres. Et puis avant ça, nous avions, hommes et femmes, il y a très très longtemps, de la pratique de grimper aux arbres avec nos cousins, frères, singes. Et donc voilà, je crois que ça remonte à loin. Le passage art du cirque est bien pour creuser ça, mais voilà, il m'a fallu nettoyer des choses après, quand même.
Ouais. C'est-à-dire que pendant ce passage que vous dites art du cirque, que vous avez creusé la suspension tout de suite, c'était tout de suite à cet endroit-là que ça se jouait pour vous ?
Non, pas du tout, pas du tout. Je suis arrivée dans une école de cirque parce que j'ai compris que c'était un cadre qui permettait de travailler physiquement toute la journée, d'éprouver des choses, d'être vivant physiquement et d'observer jusqu'où on peut aller, enfin de glaner des informations et du vécu, on va dire. Ça qui me plaisait beaucoup. Je pensais faire des éclipses sur les mains, ou à la limite, je crois que je m'en fichais un peu, faire quelque chose comme ça. Et puis, je me suis retrouvée à me spécialiser, comme on dit, en trapèze. Voilà, en trapèze ballant même, discipline que j'ai jamais beaucoup aimée, en fait, mais à laquelle je me suis fort intéressée.
C'est quoi le trapèze ballant?
Mais c'est un trapèze, voilà, on prend l'élan en étant debout dessus, on se tient, c'est des cordes qui sont sur les côtés, le trapèze est lesté, et puis on pousse en prenant l'élan debout pour aller jusqu'à 180 degrés de part et d'autre, puis on fait des vrilles, des choses comme ça pour rattraper le même trapèze. Par contre, on reste toujours sur le même. Donc on lâche, on reprend, lâche, on reprend. Et moi, je détestais lâcher, j'aimais mieux garder bien la barre. J'ai pas du tout envie de lâcher, jamais. Donc maintenant, je lâche plus. Enfin, je lâche un endroit, mais il y a toujours quelque chose qui tient et j'aime beaucoup mieux ça.
Quand vous dites qu'il vous a fallu beaucoup nettoyer après ce passage-là, qu'est-ce qu'il a fallu enlever de cet enseignement ?
Eh bien, oui, j'ai vraiment agi par soustraction. Ben, j'ai commencé par retirer le ballon parce que ça me faisait trop peur. J'ai ensuite, c'était une soustraction qui a vraiment passé par le fait de réenvisager, de me refaire un autre récit de cette pratique-là. Donc j'ai retiré l'aspect des figures quand j'ai commencé à m'ennuyer, à me dire s'il faut encore que je cherche d'autres figures. J'avais l'impression que tout le monde avait déjà tout trouvé, qu'il fallait avoir le style, que je l'avais pas, que tout c'était un peu déprimant. Et finalement, j'ai fini par, en osant retirer tout ça, quitte à avoir peur qu'il reste vraiment plus assez, ou plus grand-chose, ou plus rien, j'ai fini par me dire qu'en fait, la situation juste toute simple d'être suspendue au-dessus du vide, celle-là, elle me donnait la place de rêver quand même beaucoup. Et Et puis après, en lisant Bachelard, j'ai rêvé encore plus sur ces questions d'espace, de haut, de bas, dans l'air et les songes, avec tout l'imaginaire aussi qu'il y a là-dessus. Puis je me dis qu'en fait, c'était beaucoup plus propice à partir là-dedans quand on vidait, parce qu'on laissait la place du coup à y mettre ce qu'on veut, ce qu'on sent. Et puis dans le sens où on se rapproche du coup d'une situation qu'on peut tous éprouver, même si on ne l'éprouve pas tous physiquement. Mais on n'est pas en train de dire voilà ce que je sais faire, on est en train d'essayer de tenir comme plein de gens essaient de tenir. Il faut tout ce qu'on arrive à tenir dans des contextes qui ne sont pas toujours évidents, en fait, c'est juste ça. Donc c'est une des manifestations de ça. Il y en a plein d'autres, mais ça, c'en est une, et c'est à celle-là que je m'attelle. C'est là-dedans que je suis.
À la faveur de quoi vous avez osé soustraire jusqu'au presque rien, Chloé Mollia, à... Oui, oser.
Ouais, c'est drôle parce que j'ai une sensation encore très claire, physique et émotive de ça. Où ça commençait par le fait aussi de quand j'arrêtais, donc quand je suis sortie de l'école de cirque, j'étais très massive musculairement. Et dès que j'arrêtais, même un court temps, je perdais dans les bras. J'avais les bras qui rétrécissaient encore aujourd'hui, mais moins. Enfin, à l'époque, c'était assez énorme. Et j'avais l'impression de perdre, vraiment de quelque chose, d'une perte. Et ça m'effrayait parce que je savais plus qui j'étais, si j'étais plus cette massive qui peut, qui a cette puissance. Ce à quoi on m'identifiait aussi, enfin, il y avait quelque chose. Et là, d'un coup, si je perdais ça, j'ai l'impression que j'étais plus rien. Et je me rappelle d'un moment me dire, mais peut-être ose aller là. Et c'était tout tremblant, c'était tout vertige, tout ah qu'est-ce qu'il y a après, quoi. Et petit à petit, j'ai accepté. C'est comme si c'était une pente dans laquelle j'ai accepté de me laisser glisser, un peu effrayée, en même temps émerveillée de l'inconnu. Où ça m'emmenait, parce qu'autrement je restais accrochée à du connu, à de l'identifiable, de l'identifié, du sécurisant, enfin tout ça quoi. Et donc oui, je me suis laissée doucement glisser, je crois comme dans un toboggan, mais quand on continue à garder les mains sur les côtés, faut que ça aille pas trop vite quand même, pour voir à chaque pas pouvoir s'arrêter si jamais il fallait. Et je crois que j'ai eu un grand plaisir à sentir cette perte et à voir qu'en fait on y survit. Et que du coup, ce que je pensais être, c'est finalement, c'était pas ça. Et qu'en fait, on s'en fiche peut-être. Et que cette perspective de processus qui se change, où on se perd et on trouve autre chose, et soit finalement, c'est plus rien. Enfin, c'est un cheminement, c'est une ligne qui se trace.
Soit, vous voulez dire l'identité de soi,
oui.
Finalement, c'est plus rien. Ouais.
Oui.
C'est
oui,
plus
oui.
Aussi solide, en tout cas.
Oui, il n'y a pas cette solidité. Et plus ça va... Voilà, là, je suis sur la lecture d'un livre aussi qui m'a plongé complètement là-dedans. Plus ça va, plus je me dis, mais cette fluidité du monde, ces contours flous, indéfinissables. Je m'étais intéressée un moment à au niveau biologique, le fait qu'on soit constitué, toutes ces bactéries, le fait de plus savoir finalement où je m'arrête, quelles sont les frontières de soi, et finalement, cette sensation que ce qu'on a l'habitude de définir en termes de contours, de frontières, de choses, peut-être finalement c'est plus des flux, des champs perceptifs, des ondes, je dis ça à la radio, mais des ondes, des choses comme ça, et qu'on pourrait en fait se redessiner un monde, peut-être plus avec du fusain ou de l'aquarelle qui déborde et qui se maille qu'avec du crayon et des formes fermées et contours. C'est-à-dire que cette stabilité-là à laquelle on croit, eh bien, je pense que c'est un leurre. Ou en tout cas, je pense que c'est un leurre de ne croire qu'en ça et de ne pas assez considérer l'aspect des flux et du mouvant et des atmosphères, des climats, des lignes qui se croisent et s'entremêlent. Et, ouais.
Ce qui modifie aussi, j'imagine, durablement le rapport à son corps, qui n'est plus un outil de travail, qui est une façon d'être au monde, une façon de prêter attention au monde, une façon... d'être justement dans cet équilibre de flux et de circulation. Chloé Mollia, aujourd'hui, ce corps, vous diriez qu'il est puissant, impuissant, fragile, fort?
Tout ça, assurément. Puissant, impuissant, fragile, fort, tout ça. Et que c'est effectivement la modalité d'être au monde, mais aussi la modalité d'être le monde aussi. Et j'étais absolument fascinée de voir que on abrite en nous les conditions d'apparition du vivant, à savoir de l'eau à 37 degrés, qui étaient vraiment les conditions du vivant, et que on est une condition du vivant aussi, constituée en organisme dont on ne sait pas quelle est la fin, parce qu'on est une symbiose avec des bactéries, avec plein de choses, puis on est des flux de pensée, d'imaginaire, et finalement j'ai plus du tout un dessin net de moi-même ni de mon corps. Il y a un monsieur qui s'appelle Jean-François Bitter, que j'aime beaucoup, qui dit que le corps c'est la somme de l'activité qu'on a. Du coup ça rend flou aussi les contours, où je pense à Tim Ingold, l'anthropologue qui travaille sur les lignes, où les notions de corps, tout ça, c'est encore c'est replacé dans des flux. C'est comme si les mots qu'on avait, au lieu de circonscrire des choses, ils ouvraient au contraire vers les à côté des choses ou vers les interlignes. Et plus ça va, plus j'aime m'imbiber de ces pensées-là, enfin de ces pensées au-delà de ces pensées, de ces manières de regarder, de voir, de vivre le monde, qui fait qu'effectivement les perceptions aussi de son propre corps en sont complètement modifiées. Et du coup, globalement, ma façon de travailler ou de vivre est modifiée. Et
comme... J'allais y venir, quand on parle des arts du cirque, puisque ça a été l'un des passages, il y a l'idée du travail du corps, de l'entraînement du corps. À voir vos spectacles, on a l'impression que peut-être vous n'êtes plus là.
En effet.
Ça ne veut pas dire que le spectacle ne nécessite pas de travail, mais peut-être vous n'êtes plus à cet endroit-là, alors ce serait lequel ?
Mais c'est comme... comment dire ? C'est vrai que j'ai fait pour me suspendre là-haut. Non, je suis passée dans une école de cirque où j'ai fait des tractions, des abdos, etc. J'ai appris le trapèze. Un résultat qui a eu lieu là, celui qui a eu lieu, c'est que je me suspends maintenant à des barres. Pourtant, quand on regarde un enfant qui apprend à marcher, il ne fait pas des squats. Il ne fait pas des exercices d'équilibre sur une planche de proprioception. Il explore et il a le désir fou de se balader, quoi. Et ça fait qu'après, et que même en même temps, pendant ce temps-là, il est capable de marcher, d'avancer. C'est-à-dire que je suis plus dans un rapport où il y a un projet volontariste qui va mettre en place un ensemble de sommes d'exercices et de conditions qui vont permettre une chose future. J'ai envie de rester dans ce présent, justement, vraiment d'être là. Et je crois que maintenant, je suis guidée par mon désir fou de suspension et de voir là-haut et de sentir justement ces flux atmosphériques, de baigner dans cette eau aérienne, parce que souvent on me dit, quand on voit, on dirait que vous êtes dans l'eau. Bah oui, mais parce que l'air aussi c'est du fluide en fait, et l'air existe, enfin c'est là, c'est pas parce qu'on ne voit pas encore que ça n'existe pas. Et je me suis perdue dans tout ce que je raconte.
C'est souvent que vous vous retrouvez dans des ciels. Je le disais en introduction, Chloé Mollia, et bien sûr, il y a ce qui se passe dans les théâtres, et on y viendra, sur peut-être une création en particulier. Et puis, il y a tout ce qui se passe dehors, comme si c'était devenu ça, votre piste, ou l'endroit où vous êtes.
Mais j'ai réalisé, il y a quelques temps déjà, en rêvassant, je ne sais même plus à quoi, qu'on dit qu'on est sur Terre ou qu'on est des terriens, mais en fait, on a juste la plante de pied à travers la semelle d'une chaussure qui touche la Terre. Et quand on regarde tout ce qu'on a comme peau qui touche l'air, on peut dire qu'on est absolument aérien, qu'on vit le ciel, on vit dans le ciel, avec le ciel et dans les flux célestes. Même dans ce relatif ras du sol, j'ai relatif, parce que quand je pense aux fourmis, je me dis on est quand même vraiment très haut. Mais du coup, la suspension, c'est décoller les plantes de pied du sol, et c'est du coup mettre même sous les pieds encore de l'air, mais c'est juste continuer cette manière d'être en l'air, effectivement. Et c'est vrai que le fait d'être dans le ciel directement, de ne pas avoir mis le couvercle d'une salle par-dessus soi, ça laisse rêver à ça beaucoup plus, à l'endroit justement des dimensions qu'on a, qu'on est, qui sont toujours relatives à tout, mais qui sont néanmoins perçues à partir du centre duquel on regarde, où on perçoit les choses. Donc c'est vrai que j'aime ça, et puis surtout en retirant le couvercle, que je vis vraiment maintenant comme un couvercle qui a sa fonction. C'est super des fois quand on le met, on sait pourquoi. Et quand on le retire, c'est comme si ça réouvre, et d'avoir des oiseaux qui passent juste à côté. L'autre fois, il y avait une abeille, les gens avaient peur parce qu'il y avait une abeille qui me tournait autour, mais c'est trop joli. Et y a, du coup, il y a la vie, il y a le monde, et on est là encore au monde, dans le monde, et le monde. Enfin, tout ça, c'est là, quoi.
Allô, allô. La direction a le plaisir de vous présenter la plus forte trapéziste du monde, Maryse Bégari. Maryse Bégari va exécuter un exercice de sa création de la plus haute difficulté, le tourbillon d'un bras.
Et vous êtes toujours à 8 mètres de hauteur quand vous travaillez au trapèze. Je voudrais vous demander, vous voyez à ce moment-là les gens de très haut, vous voyez leur tête qui se lève vers vous, je voudrais vous demander si vous êtes impressionné par ces gens qui vous regardent.
Bien, non, parce que malgré tout, je ne suis pas une débutante, j'ai fait quand même 10 ans d'école professionnelle, et maintenant, j'ai l'habitude, naturellement.
Et vous n'avez jamais le trac de monter là-haut, à 8 mètres, c'est très haut. Je vous pose toutes ces questions, je vais vous dire pourquoi, parce que quand je vous ai vu pour la première fois, moi j'ai eu le trac pour vous, alors je voudrais savoir si vous, vous l'avez aussi.
Oh non, pas du tout, sauf que pour l'équilibre, naturellement, il faut toujours un peu de...
Il faut se lancer.
Il faut se lancer, voilà, oui. Il n'y a que ça qui me tracasse, sinon tout le reste du travail, c'est bien.
Eh bien, il faudrait que j'ajoute aussi que lorsque vous avez fini votre numéro de trapèze, vous redescendez à terre, bien entendu, et à terre, vous retrouvez votre mari qui vous attend, et puis ensuite, vous rentrez dans la caravane et vous retrouvez votre petite fille qui a 16 mois. Et je voudrais dire aussi que lorsqu'il n'y a pas de matinée au circus, vous en profitez pour promener tout tranquillement votre petite fille qui a 16 mois, comme toutes les mamans du monde. Mais j'ai la chance d'avoir auprès de nous votre mari, et puisque vous ne m'avez pas répondu au sujet du trac, c'est à lui que je vais demander s'il a le trac lorsqu'il vous voit voltiger à 8 mètres de hauteur.
Ben, je vous dirais franchement, non. Je suis sûr d'elle, alors c'est comme si c'était moi qui y étais.
Nous voilà en 1949, Chloé Moulia, cette trapéziste présentée comme la meilleure du monde, Maryse Bégari, est interviewée lors de son retour sur Terre. Peut-être pour parler avec vous de cet écart de temps et de tous ces écarts qui vous éloignent de Maryse Bégari, mais quand même de tous ces mots qui sont utilisés. La direction présente une femme qui va exécuter des choses difficiles et qui, redescendue sur terre, retrouve qui ? Son mari, pour faire quoi ? Promener son bébé, et son mari qui dit « c'est comme si c'est moi qui l'avais fait ». Pourquoi on vous fait entendre cette archive, Chloé Moulia ? C'est aussi pour parler du fait que vous faites évoluer non seulement votre propre corps, mais aussi le corps de femme, par exemple dans la spire. Pourquoi ce choix-là ?
Eh bien... Alors j'avais fait des ateliers ou des labos en me disant que ce serait quand même joli aussi d'ouvrir à des hommes. Je dis ça pour dire que je suis pas du tout contre déjà, qu'il n'y ait pas méprise. Par contre c'est vrai que c'est très différent quand on... Enfin en tout cas, ce qui m'est arrivé c'est-à-dire de voir des hommes suspendus au bar que je leur proposais du coup. Il y a évidemment musculairement une plus de facilité que nous au départ. Et... Du coup, cette incertitude quant à la possibilité d'y arriver met plus de temps à apparaître. Par ailleurs, c'est très étonnant, hein, mais je suis tout de suite ramenée dans un imaginaire de salle de sport quand je vois un homme qui fait des tractions. Quand je vois une femme qui fait une traction très tranquillement comme pour aller voir au-dessus de la barre, je suis dans rien du tout de reconnaissable. Voilà. Donc, je crois que c'est quelque chose... comme je l'ai développé moi et qu'il se trouve que je suis une femme, je crois que c'est quelque chose qui s'est développé vraiment au féminin, en tout cas avec ces caractéristiques-là. Et c'est vrai que j'étais sensible à cette... je crois, oui, plus ça va, je suis sensible à cette question de la force au féminin. On peut dire ça comme ça. Ça me pose toujours question parce que je ne sais pas s'il y a du féminin ou du masculin. Mais en tout cas, la force incarnée par des femmes, parce que ça ne va pas de soi, a priori, alors que... pour avoir déjà couché une fois quand même, finalement, voilà. Je trouve ça intéressant. Et puis globalement, pour retirer ces questions de genre, mais rester sur l'aspect de la force et de la fragilité dont on parlait tout à l'heure, qui peut-être pour moi est plus facile à ouvrir avec des femmes qu'avec des hommes, peut-être parce que je connais plus le chemin et que les ingrédients sont pas les mêmes tout à fait au départ. C'est pour moi un enjeu ou quelque chose d'important d'arriver à travailler de la force qui ne va pas écraser la sensibilité, comme ça peut avoir lieu, mais pas non plus d'exacerber une sensibilité qui barrerait tout le chemin à une forme de puissance qui est aussi une joie de la joie de pouvoir faire, la joie d'agir, d'être au monde. Et je crois que je travaille vraiment à la régulation dans un premier temps quand c'est séparé de ces deux éléments, de la force et du sensible, pour finalement tendre vers le fait qu'il n'y ait plus deux éléments séparés, mais qu'en fait ce soit une seule et même chose, c'est-à-dire une puissance attentive, pleine d'acuité, qui fait que l'effort va pas empêcher d'être vraiment présent à tout ce qui a lieu dans les choses les plus qui demandent un seuil de sensibilité le plus fin. Voilà, donc je pense que avec des femmes qui a priori font moins de traction en tout cas au départ que des hommes, j'ai développé du coup un aspect plus de travailler la force en maintenant une sensibilité ou en cultivant une sensibilité, et que ce serait un autre chemin peut-être pour des hommes où la force est plus présente. Et où du coup, il faudrait voir comment... Enfin, c'est un autre réglage à faire que j'ai pas fait. Voilà, cela avec le fait qu'en termes d'imaginaire, ça raconte pas la même chose. Et voilà, donc on est des femmes.
À la faveur de cette archive, j'ai été regarder des images de trapézistes des années 40, des années 50. Et j'ai réfléchi, en effet, à leur retour sur Terre. Puisque dans l'entretien, on dit ça. Une fois que vous retournez sur Terre, et je me dis, elles présentaient des corps qui étaient absolument inconvenants, ou des postures inconvenantes pour la société de l'époque. Et quand elles rentraient, elles retrouvaient le sol. Parfois, elles n'avaient pas encore le droit de vote, ou pas la liberté d'aller travailler, ou pas de chéquier, bref. Et donc, ça m'a fait réfléchir au fait que, oui, être dans les airs pour une femme, pendant très longtemps, c'était un espace de liberté qu'elle n'avait pas au sol. Est-ce que c'est quelque chose qui traverse aussi votre pratique, Chloé Molia?
Eh bien oui, en dépit effectivement des années qui sont passées entre cette archive et puis aujourd'hui. Si, il y a quelque chose de cet ordre-là, peut-être plus à un endroit de relation au temps, et qui fait que le retour au sol, aujourd'hui, c'est le retour à une forme d'agitation, à un état d'urgence, à toutes ces choses-là qui compriment, qui pressurisent avec les téléphones, les mails, les machins, toute cette chose-là qui fait qu'on est censé s'agiter continuellement tout le temps. Et suspendre, c'est suspendre ça aussi. C'est faire cesser ça pour être avec les oiseaux qui passent, avec une forme de silence, avec un rythme autre, avec une écoute à quelque chose de plus profond, étrangement. C'est comme si on montait pour aller chercher le plus loin dans le sol, ou un rythme géologique qu'on va aller chercher en résonance, en montant là-haut. C'est comme s'il y a un endroit à la surface de la croûte terrestre, en tant qu'humain, où on est dans des zones de fréquence beaucoup trop inadéquates, trop fortes. Enfin, il faudrait faire quelque chose vite. Et se décoller de cet endroit, de cette horizontalité-là, dans ce flux-là, permet juste, évidemment, de prendre un peu de recul, enfin de hauteur, évidemment, de voir ça autrement, et d'échapper à ce flux qui, là encore, je parle en termes de flux, quoi, qui comme un torrent nous emmène. Donc oui, ça permet de s'extraire de ça.
Ça fonctionne toujours, cette élévation. Toujours lorsque vous vous retrouvez à plusieurs mètres suspendu, quelque chose se suspend effectivement.
Oui, et je dirais même, je pense à Opus Corpus, là, qui est vraiment au ras du sol, je dirais même à partir du moment où la plante de pied a décollé, où le dernier bout de peau du bout de l'orteil décolle, il y a quelque chose qui se suspend. Et c'est... Enfin, ça se sent. Rien qu'en en parlant, là, j'en ai la mémoire physique. Je le sens même dans le diaphragme. Ça, quelque chose remonte, enfin, se suspend. Et je crois, ouais, pour les gens qu'il y a autour aussi. Et c'est drôle, j'associe, moi, la suspension beaucoup à la question. Alors, pas au sens de la torture, mais à la question au sens de, d'un coup, quelque chose qui monte, qui est un peu élevé. Comme quand on pose une question et qu'on n'a pas encore la réponse. Je sais pas si vous voyez, en termes de verticalité, une question, ça fait monter, une réponse, ça reconclut en faisant descendre. Et donc la suspension, pour moi, il y a l'idée de poser des questions, souvent silencieuses, mais c'est-à-dire de poser des questions dans le sens où on soulève, et donc les sens s'ouvrent, et on écoute, on regarde, on ne sait pas. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre du ne pas savoir, qui fait que tout est un peu en l'air. Et quand on revient sur Terre, ça fait une forme de conclusion, on est de nouveau dans savoir. C'est une forme de quelque chose qui redescend. Alors, je ne sais pas si je l'ai tellement éprouvé que du coup, pour moi, c'est très clair. Et ce que je dis, peut-être, ça ne le sera pas.
Mais bon.
Le sens du mot risque a changé au fur et à mesure. Le mot risque a changé de sens. Le sens du mot risque a évolué. Au départ, risque, c'était plutôt en relation avec le hasard. Et au fur et à mesure, ce côté hasardeux a été ressenti plutôt comme étant une menace. Et le risque est devenu se rapprocher de... La signification du mot risque s'est rapprochée de celle du mot danger. On a besoin de sécurité. Et puis en même temps, on court tous se mettre dans des situations complètement invraisemblables. On a besoin de se frotter au risque, au danger. Comme quand on est au bord d'une falaise, on pouvait rester à bien 5 mètres du bord pour être sûr de ne pas tomber, mais non, il y a cette envie d'aller se mettre juste au bord, là, d'aller s'approcher au plus près, d'aller regarder par-dessus. Quand on regarde par-dessus le vide, dans un précipice, il s'en passe des choses dans la tête. On imagine, on projette. Quelque part, je suis sûre qu'on entrevoit la possibilité de s'y jeter, ça c'est sûr. On entrevoit la possibilité d'y tomber.
L'homme se précipite quand il est tenté justement par le vide, par l'abîme du précipice, et en même temps, dans un autre sens, non seulement l'homme se précipite vers le précipice, mais encore, l'homme est tenté par l'actualisation de cette culpabilité virtuelle.
Chloé Mollia, c'est un extrait d'un spectacle où justement vous mettez le couvercle. Tout à l'heure vous disiez qu'il y a parfois du bon à mettre le couvercle d'une salle de spectacle. Comment vous le dites ? Risikon ? Risikon ?
Risikon, c'est l'étymologie grecque.
Risikon. Vous êtes au tableau, vous écrivez des deux mains et par exemple ces deux mots, danger et risque, c'est une sorte de leçon de choses que vous faites ? Avant de vous suspendre au tableau, en regardant ce spectacle, j'ai pensé à ce que fait Joanne Le Guillerme dans Le Pas Grand-Chose, où d'un seul coup, il se met à parler aussi de sa pratique. Le reste de vos spectacles sont des questions plutôt silencieuses. Pourquoi cette fois-ci vous parlez ?
Ça, c'est une excellente question. C'est vrai que c'est comme si j'essaye... Enfin, j'ai l'impression de passer pas mal de temps dans ma vie à essayer de réunir des choses, effectivement, la force et la sensibilité, tout ça, et de réunir aussi le fait d'être un être physique, une existence tangible dans le monde en tant que partie du monde, et le fait d'être aussi quelqu'un qui peut parler. Et ça semble évident, et étrangement, je sais pas si c'est parce qu'il y a deux endroits de moi-même qui sont concernés et qui sont pas forcément tout à fait à côté, qu'il faut que je les rassemble, ou si c'est parce que j'ai été éduquée même à l'endroit de faire des spectacles avec un aspect où on travaille le physique et puis où on sait que normalement on doit pas parler parce qu'on parle mal, parce qu'on n'est pas comédien. Et pourtant, je m'étais dit que je me suis quand même beaucoup plus adressée à des gens dans ma vie que je me suis suspendue, même si j'ai passé beaucoup de temps en suspension. Donc, tout ça, ça demande à être envisagé. Donc, je ne sais pas si c'est encore une lecture, une interprétation que j'ai, ou si c'est quelque chose en soi. Mais c'est vrai que c'est pas tout simple de pouvoir de parler. Bon, après, des fois, on se demande aussi l'utilité à l'endroit du spectacle. Mais là, ça m'intéressait, c'était très particulier, ce spectacle-là. Ça a été fait dans un cadre étonnant. Je m'adressais à des lycéens au départ. Et ça m'a mis dans un tout autre rapport. C'est-à-dire le premier couvercle qu'il y a eu qui m'a coupé du ciel lointain pour regarder dans un ciel proche, c'était le couvercle d'un lycée professionnel. Donc ça aide aussi à réouvrir d'autres chemins que ceux qu'on a appris, ou en tout cas qui sont un peu dictés par l'endroit théâtre et tout ça. Donc ça me semblait évident, il n'y avait pas de scène qui nous séparait, ou... On était vraiment ensemble dans cet espace-là, puis qu'on avait une heure ensemble et qu'il fallait que ça tienne, et que c'était pas forcément une évidence. Il me semblait que je pouvais pas ne pas m'adresser à eux, d'une certaine manière. Il fallait être là en tant que femme, pas que en tant que trapéziste justement, ou que artiste, ou je sais pas trop quoi. Donc il fallait trouver cet endroit-là, et c'était une manière de créer une porte d'entrée, comme j'ai essayé d'en mettre plusieurs dans ce spectacle-là, enfin, entre l'écriture, le dessin, les choix de son, de musique, de parole, de Yankelevitch aussi qu'on a entendu, et puis physiquement aussi, ce qui s'y passe.
Et vous avez l'impression qu'à ces lycéens, vous leur parliez de quoi ? De votre propre façon de mettre votre corps en danger, ou de leur façon à eux d'avoir parfois aussi envie de mettre leur corps en danger, d'avoir envie d'aller regarder ce qui se passe au-dessus du vide, ou juste ce qu'il y a derrière la barrière ?
Mais je crois de tout ça, en fait, je crois que j'essayais de poser cette situation de désir, effectivement, de s'approcher lentement du bord de la falaise, parce que c'est une situation qu'on connaît tous, qui n'est pas propre justement aux trapézistes, qui fait qu'il y a encore un clivage, ça exclut les gens extraordinaires. Non, on est tous dans de l'ordinaire, il y a vraiment un rapport à du commun là-dedans. Et le fait d'aller s'approcher au bord de la falaise avec cette limite qui est pour chacun différente, et qui fait qu'on va tout à fait vraiment sentir cette petite pétillance, cette acuité qui augmente au fur et à mesure qu'on s'approche du bord. C'était un endroit qui me permettait vraiment de créer du commun. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de ma peur ou de mon désir de pétillance ou de la leur. Ça en est une qui est partagée et qui me permettait d'essayer de travailler à légitimer ce désir-là, tout en regardant avec le plus de perspicacité, de présence d'esprit possible. Qu'est-ce qu'on fait avec ce désir-là d'aller au bord du vide en termes de responsabilité vis-à-vis de soi, vis-à-vis des proches, vis-à-vis des gens, enfin tout ça. Donc le qu'est-ce qu'on en fait, ce désir-là, de pas trop les mélanger, parce que je crois que je sentais qu'il y avait des possibles stigmatisations un peu de ce désir-là, comme quelque chose qui serait pas bien, qui serait pas sage, qui serait pas correct, qui serait peut-être un peu fou, un peu... irresponsable, et vraiment ça je crois pas. Je crois que par contre, ce désir-là implique une grande responsabilité. Mais ils sont liés. Et ça me plaisait de dire, mais on peut être ensemble dans ce désir-là, par contre regardons qu'est-ce qu'on en fait. Comment on peut faire avec ça pour effectivement rester vivant, enfin se sentir vivant, pas s'enfermer, c'est toujours ces deux polarités, quoi, dans un trou sécuritaire où on ferme tout, on est sûr de tout, mais du coup la vigilance et la pétillance et l'état d'être au monde se restreint et s'étiole, ou quelque chose où on serait sans arrêt en train de chercher ça avant la caisse jusqu'à se cramer, quoi. Donc comment on fait avec ça, où on est toujours seul et on est par contre pleinement responsable de ses choix et de la situation dans laquelle on se met ou dans laquelle on met les autres éventuellement.
Oui, parce que vous dites on est toujours seul, et à vos écoutes, Chloé Moulia, on se dit que vous nous parlez tellement et complètement des temps qui courent, des temps que nous traversons aujourd'hui. Est-ce qu'on blinde tout pour être sûr d'être en sécurité, jusqu'à diminuer peut-être le sentiment d'être vivant et celui d'être ensemble ? Ou est-ce qu'on ouvre à tout bout de champ, jusqu'à ce que le danger soit tout le temps là ? Ce matin, une amie me disait « je me sens suspendue ». C'est comme si nous étions tous suspendus au-dessus du vide. Et j'ai évidemment pensé à vous, et je me suis dit, il y a vraiment plusieurs façons de l'être, en fait.
Absolument, et c'est sûr que cet état d'être suspendu au-dessus du vide, si on n'a pas eu la chance à cet endroit-là, enfin je garde la métaphore, de développer les capacités de tenir dans une forme de tranquillité qui n'exclut pas la vigilance, dans une tranquille acuité, c'est terriblement angoissant. Et ça, enfin pour moi en premier lieu, hein, le précipice en dessous, mais quelle horreur, quoi. Ça fait très peur. Du coup, c'est... effectivement, je dis, qu'est-ce que c'est cet état de suspension dans le vide ? Je trouve que c'est comme si c'était cet état de question porté à un espèce de paroxysme qui deviendrait presque insupportable. De question, c'est-à-dire d'incertitude totale, qui fait que peut-être ce à quoi on se raccroche est de plus en plus fin et que c'est de plus en plus terrible de s'y tenir. Et il est probable qu'on traverse effectivement des temps un peu... qui courent de cette manière-là.
Qu'est-ce qu'ils vous disaient, ces lycéens ?
Oh, plein de choses. Quand on avait peu de classes ou une seule classe et qu'ils osaient parler et qu'ils sentaient justement que le rapport établi permettait une écoute et un partage de ça, il y en a qui, je m'en souviens d'un en tout cas, qui me disait qu'effectivement, il aimait passer le virage au feu rouge, les yeux fermés, avec son scout. Et il m'était important à cet endroit-là de l'écouter, de pas lui barrer le chemin tout de suite en disant « mais t'es idiot, hein, machin, faut pas faire ça ». Bien sûr, il ne faut pas faire ça, mais il faut écouter pourquoi lui doit le faire. C'est-à-dire, s'il le fait, c'est que lui, il faut qu'il le fasse. Donc il faut trouver un chemin pour qu'il ne faille plus qu'il le fasse, tout en arrivant à récolter quand même ce qu'il a besoin de récolter là-dedans. Il a besoin de quelque chose, c'est une espèce d'appel à être vivant. Donc à se dire plutôt, ce désir-là, il existe, mais peut-être on va trouver d'autres chemins, peut-être on peut imaginer autre chose. Donc il y a pu y avoir des petits échanges comme ça, il y a pu y avoir aussi des grands silences, peu de mots renvoyés, mais toujours une grande attention quand même, ça, ouais, de leur part.
Un instant ne s'accole pas à un autre pour former un présent. L'identité du présent se fractionne en une inépuisable multiplicité de possibles qui suspendent l'instant. Et cela donne un sens à l'initiative que rien de définitif ne paralyse, et à la consolation. Car comment une seule larme fut-elle effacée ? Pourrait s'oublier. Comment la réparation aurait-elle la moindre valeur si elle ne corrigeait pas l'instant lui-même, si elle le laissait échapper dans son être, si la douleur qui brille dans la larme n'existait pas en attendant, si elle n'existait pas d'un être encore provisoire, si le présent était achevé.
Romain de Bec-de-Lièvre qui lit un extrait de Totalité et Infini d'Emmanuel Lévinas, Chloé Moulia, parce qu'il y a une phrase qui revient très souvent et que vous citez. Il me semble que c'est « Le présent déchire l'infini du temps ». Et dans l'extrait que vient de lire Romain de Bec-de-Lièvre, il y a cette idée-là que il faut donner un sens à l'initiative et à la suspension de l'instant. Qu'est-ce que vous trouvez dans la lecture de Lévinas qui vous parle ou ne fait que vous parler, en fait, de votre pratique?
Pas mal de choses, en fait, hein, parce que effectivement, c'est une, je dirais, comme c'est une pratique ouverte, il s'agit plus de, depuis la suspension, de regarder tout le reste autour. Et cette question du temps, elle est absolument vertigineuse, selon par quel endroit on l'approche. Cette question de l'instant, donc effectivement il y a Lévinas, il y a des philosophes de l'Antiquité, là en lisant Pierre Hadot aussi, où il y a des choses assez somptueuses là-dessus. J'ai une petite pensée pour Étienne Klein qui est souvent sur vos ondes aussi. Et, 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 Donc il y a tout ce que effectivement j'ai pu lire là-dessus, comme si les lectures allaient cultiver ou renforcer ou donner un appui à mes sensations après quand en étant vivante, pas que suspendue finalement, mais à mes sensations pour arriver, comment je veux dire, c'est comme si dans le flux de sensations que je vis, que je suis, je ne sais plus comment parler à cet endroit-là, parfois, enfin il y en a plein, la plupart, on ne sait pas y faire attention parce qu'elles ne sont pas reconnaissables, elles ne sont pas suffisamment connues, du coup elles glissent, elles s'évanouissent loin. Et parfois, des lectures justement, enfin effectivement, Emmanuel Lévinas ou, je sais pas, ou Bitter ou d'autres, ou Pirado, ça permet d'élever le seuil de sensibilité et de pouvoir récolter dans ces sensations, même celles qui sont tellement informes qu'on ne peut pas les reconnaître comme quelque chose vraiment qui va nous parler, alors qu'en fait elles sont là. Et sur le temps, je trouve qu'il y a pour moi quelque chose de très fort que je vis comme ça, où les mots m'aident à aller cueillir des sensations qui autrement n'auraient pas accédé à une véritable existence, parce que j'aurais glissé dessus sans les sentir, enfin tout en les sentant, mais sans les faire émerger dans le vrai, dans le réel, quoi.
Et ce sont des sensations qui, du même coup, deviennent partageables quand, par exemple, pour l'aspire, vous êtes plusieurs à éprouver des choses, à éprouver cette suspension, chacune à votre manière. Ça devient des sensations qui peuvent se dire de manière plus précise.
Alors oui, on met des mots là-dessus, j'en mets beaucoup, j'en amène beaucoup, et souvent beaucoup de mots très contradictoires, et beaucoup de sources aussi littéraires très contradictoires, parce que les mots souvent effectivement vont circonscrire ou figer ou donner des pseudo-vérités, alors que ça va être toujours dans de l'entre ceci, cela, et dans une question, c'est-à-dire les mots, c'est comme si le risque qu'ils apportent des réponses à cet endroit-là, ou qu'ils disent c'est ça en fait qu'on cherche, ou c'est ça qu'il faut, ou c'est ça que... Alors qu'en fait, ils sont des appuis sur lesquels se tenir, mais ils sont pas nous, ils sont pas là où on est. C'est entre, en se tenant, je sais pas, c'est comme si les mots étaient des murs sur les côtés, puis en se tenant au mur, on peut être au milieu et quelque chose peut se passer de mouvant au milieu. Donc il faut à la fois en donner, à la fois les briser en même temps qu'on les donne, je trouve. Pour justement rester dans ce présent, c'est-à-dire dans cette acuité d'être toujours... Enfin, il y avait ce mot initiative que vous disiez, c'est là où ça initie, d'être toujours sur un espèce de début, c'est-à-dire une espèce de question de quoi. Il y a un... Je crois que... j'ai peur de dire une bêtise, si c'est pas Chuang Tzu, mais je crois que c'était lui qui parlait de se promener... Peut-être je me trompe de source, voilà, puis on m'excusera, mais qui parlait de se promener à la naissance des phénomènes. J'adore cette image, parce que c'est effectivement aller se promener là où ça démarre, mais sachant qu'il n'y a pas d'origine, effectivement. C'est-à-dire que la naissance, c'est un vertige encore d'une espèce de quelque chose dans quoi on va glisser, qui n'a pas de fin, il n'y a pas d'endroit où on va atterrir quelque part, mais on va par contre peut-être se rapprocher à l'infini de cet endroit complètement vertigineux du début. Ce que je demande beaucoup de chercher, par exemple, les gens avec qui je travaille, en étant suspendu, par exemple, quand on veut monter les jambes, des fois, très vite, on les monte. Mais si on cherche par où ça commence, c'est quoi le début de ça? C'est vertigineux. On sait jamais. Et on va chercher ça, et on va être dans la question infinie de ne jamais le trouver, mais par contre, de s'en rapprocher, toujours. Pareil, le début du « j'en peux plus », quand on veut lâcher une main, c'est quoi? C'est où? Comment ça se manifeste et qu'est-ce qui n'en peut plus? Et d'ailleurs, sur la question de. Enfin, sur le fait d'être parfois dans des questions où ça devient. Ça peut devenir insupportable, plus ça va, quand je sens que je n'en peux plus, je me suis souvent demandé si c'était mon corps ou ma tête qu'en pouvait plus, évidemment, ce qui, de toute façon, n'est absolument pas la bonne question, mais qui permet en tout cas d'aller vers quelque chose. Et la sensation que j'en tire, c'est que quand j'en peux plus, en fait, c'est que je suis dans un questionnement insupportable. De savoir quelle est la suite à cet endroit de sensations que je ne connais pas encore, ou en tout cas pas dans cette intensité-là. Je sais pas qu'est-ce qui se présente après. Si c'est une lésion, si c'est que ça lâche. Et ce je sais pas, cette question sur la suite, cet inconnu de plus en plus énorme.
C'est ça qui est insupportable.
Finit par être insupportable. Et c'est ça qui fait qu'après un moment, je dis, je descends, j'en peux plus. Mais ce j'en peux plus, en fait, il est fait de ça, d'inconnu.
Et donc, ce j'en peux plus, il est fait aussi d'une micro-défaite à se tenir dans le présent qui déchire l'infini, puisque c'est cette phrase que vous utilisez. Dans le présent qui déchire l'infini, le « j'en peux plus » n'existe pas, en fait.
Absolument, absolument. C'est le moment où on sort de ça et où l'agitation à l'intérieur et les projections sur la suite reliées à des sensations du passé écrasent l'endroit du présent, où on devient complètement tendu entre un futur incertain, un passé qui nous colle aux mains, ou je sais pas quoi. Et du coup, effectivement, cet endroit du présent n'a plus lieu.
Et parfois, Chloé Molia, quand vous êtes suspendue à une perche ou à une spirale, vous sentez qu'il n'y a plus de passé qui vous colle au basque et il n'y a plus de futur qui vous rende trop incertaine. Alors il y a quoi ? Une sorte de quoi ? De légèreté incroyable ou de rien ou de... Ça ressemble à quoi ?
Mais il y a une direction dans une absence de trop de tension, effectivement. Enfin, il y a quelque chose qui lâche dans la tête entre, oui, les projections vers la suite, qu'est-ce que je fais, quoi, comment, ou bien d'où je viens, pour effectivement être plus dans qu'est-ce qui a lieu là maintenant, quoi, qu'est-ce qui a lieu. Et qui fait que ces projections sur la suite sont parfois, par exemple, enfin, ces fils trop tendus, c'est des pièges, les mots, là, faut faire attention, je fais attention à ce que je dis, mais ces fils qui se tendent trop vers avant et après, peuvent des fois relier à un rapport plus volontariste à « je voudrais faire ça parce que dans vue d'un projet ». Et on revient dans un système où on fait des projets qu'ensuite on réalise. Moi, c'est pas du tout l'endroit du vivant que je sens, vers lequel je veux aller. Et à cet endroit-là, c'est plus comment être suffisamment, avoir suffisamment d'acuité pour épouser les lignes du présent de ce qui a lieu et les suivre. Et là, je repense à Tim Ingold, cet anthropologue que j'aime beaucoup. Il disait que, il parlait de suivre la pente en termes de, par exemple, quand on travaille un matériau, quelque chose, qu'on n'a pas forcément non plus un projet préconçu sur le matériau, mais qu'il faut entrer dans une connaissance du matériau pour suivre la pente du matériau et laisser le projet évoluer en fonction de cette matière et se guider par là. Et ce suivre la pente n'est pas une chose, il le nomme très bien, n'est pas une chose de l'ordre d'une passivité où on fait que se glisser dans le cours des choses. Avec le pseudo lâcher prise, là, que j'aime pas du tout, moi, mais qu'on est dans un suivre la pente actif, comme un chasseur à l'affût, avec plein de questions dedans, de quoi, comment, ça va où, avec tous les sens qui s'ouvrent, mais suivre la pente. Et pour ne pas rentrer dans cette logique de je veux et j'écrase tout sur le passage pour aller là où je veux, non, je veux rien. Je veux suivre la pente de ça, je veux connaître ce qui a lieu là et vers où ça m'emmène. Et suivre ça en étant active pour épouser les contours du monde à cet endroit-là le plus possible, être plus en plus en contact avec tout ce qui a lieu.
Comment s'en sortir sans sortir ? C'est le titre d'un film où Gerasim Louka dit des poèmes, et on voulait terminer par ça, Chloé Molia. Ce poème-là s'appelle « Ma déraison d'être ».
Le désespoir a trois paires de jambes. Le désespoir a quatre paires de jambes. Quatre paires de jambes aériennes, volcaniques, absorbantes, symétriques. Il a cinq paires de jambes, cinq paires symétriques, ou six paires de jambes aériennes, volcaniques, sept paires de jambes volcaniques. Le désespoir a sept et huit paires de jambes volcaniques, huit paires de jambes, huit paires de chaussettes, huit fourchettes aériennes absorbées par les jambes. Il a neuf fourchettes symétriques à ses neuf paires de jambes, dix paires de jambes absorbées par ses jambes, c'est-à-dire onze paires de jambes absorbante, volcanique. Le désespoir a 12 paires de jambes, 12 paires de jambes. Il a 13 paires de jambes. Le désespoir a 14 paires de jambes aériennes, volcaniques. 15, 15 paires de jambes. Le désespoir a 16 paires de jambes. 16 paires de jambes. Le désespoir a 17 paires de jambes absorbées par les jambes. 18 paires de jambes et 18 paires de chaussettes. Il a 18 paires de chaussettes dans les fourchettes de ses jambes, c'est-à-dire 19 paires de jambes. Le désespoir a 20 paires de jambes. Le désespoir a 30 paires de jambes. Le désespoir n'a pas de paire de jambes, mais absolument pas de paire de jambes, absolument pas de jambes, mais absolument pas de jambes, absolument trois jambes.
Gerasim Luka, dans ce film qui le regarde dire comment s'en sortir sans sortir, m'a des raisons d'être. Vous disiez tout à l'heure, Chloé Monglia, quand je travaille, il faut que j'apporte des mots, pourquoi pas, mais s'ils viennent, alors ils doivent toujours être contradictoires. Et Gerasim Luka qui dit « Le désespoir a 15 paires de jambes, puis tout de suite après, le désespoir n'a absolument pas de jambes. » Ah oui, alors il faut se tenir au milieu de ça.
Eh oui, ça m'évoquait de la contorsion imaginaire, imaginative, ou, et puis des enchevêtrements de fils de ce qu'a lieu, ce qu'a pas lieu, ce qui est, ce qui n'est pas, qui effectivement... nous relaisse dans ce vide entre les deux, dans ce on sait pas en fait, dans ce on sait pas finalement. Je crois que c'est ça qu'il faut jamais perdre.
Et qui laisse dans le vide entre les deux, mais en présentant votre travail tout à l'heure, j'ai dit que ça parlait autant de notre peur du vide que de notre puissance à penser, votre travail, que de notre puissance à imaginer. Quand vous ouvrez les mots, quand vous ouvrez les espaces, vous ouvrez aussi de la place pour qu'on y projette des choses. Comment les sentez-vous, ce que les personnes qui vous regardent projettent dans les espaces que vous ouvrez?
Ah ouais, ça se sent, je crois qu'on projette ensemble, moi aussi je projette avec. Et effectivement, ça se sent comme un peu à la texture de l'air qui nous relie, qu'on respire chacun tous. Ça se sent parce que l'attention, c'est quelque chose, je trouve, de très palpable. J'aime bien prendre l'exemple de si on est tous dans une pièce, s'il y a quelqu'un qui va se mettre à regarder attentivement par la fenêtre, on va tous avoir envie de tourner la tête. Donc quand on est très très attentif à quelque chose ou à un nombre infini de choses finalement, parce que c'est la différence entre être concentré, ça c'est sur un tout petit peu de choses, et puis être attentif à tout, cette attention-là va être contagieuse, va être partageable, partagée. Et ça fait changer quelque chose de la texture de l'espace, enfin de la pièce qu'on est dans une pièce ou de l'endroit qu'on partage. Ensuite, moi, quand je suis là, où je regarde très précisément tout le monde...
Votre attention est aussi portée sur les gens qui vous regardent.
Ah bah oui, oui, oui. Oui, oui, parce que j'ai appris ça aussi, j'ai appris à travailler avec l'éventuelle peur, l'éventuelle rêverie, tout ce qui a lieu, parce que tout ça m'atteint, ça me traverse. Ça m'est arrivé une fois d'être gagné, au tout début d'un travail, il m'est arrivé une fois d'être gagné par la peur que les gens avaient de moi. Et la peur est venue dans moi et c'est devenu ma peur. J'ai eu peur. Là, j'ai dit j'arrête, venez me chercher, je pourrais plus continuer plus loin, etc. Donc il faut savoir faire circuler ces flux encore émotifs qui traversent tous ces espaces-là. Il faut pouvoir être suffisamment vide en soi pour qu'il n'y ait pas d'accroche à cet endroit-là, où ça se conglomère, où ça fasse des nœuds. Enfin, il faut que tout ça puisse circuler assez librement, tranquillement, comme un souffle, en fait.
Si la peur des gens existe, alors elle passe à travers vous, mais vous, vous êtes suffisamment vide à ce moment-là pour qu'elle ne devienne pas la vôtre, qu'elle ne soit pas capturée par votre corps.
Oui, et du coup, il n'y a pas d'accroche pour eux à continuer à nourrir cette peur-là. C'est-à-dire qu'elle peut continuer à se nourrir, s'il faut qu'elle continue à se nourrir, ça c'est encore autre chose. Mais je ne vais pas la valider. Je ne vais pas donner raison d'avoir peur, mais ni donner raison d'être rassurée non plus. Parce qu'il y a aussi peu de raisons d'avoir peur que de raisons de ne pas avoir peur, je crois. Il y a en tout cas un état des lieux qui demande, je crois, d'être alerte, d'être vigilant. Et peut-être il y a quelque chose aussi qui m'importe là, peut-être d'arrêter d'osciller entre un état de non-vigilance absolue, de confiance, les yeux fermés, un peu endormi dans une espèce de flux, avec justement cette illusion de stabilité, qu'on est quelqu'un quelque part. complètement. Et qui après, du coup, tout est un des flux qui évolue. Une fois qu'on a un seuil de sensibilité qui fait qu'on s'aperçoit que ça évolue, on est pris de panique parce qu'on dit « Ah, mais en fait, ce que je croyais stable là, sous moi, finalement, c'est plus ça, c'est pas ça. Qu'est-ce que s'est-il passé ? Panique !» Et jusqu'à prendre conscience d'une nouvelle stabilité dans quoi on se met. Donc ça fait qu'on fait des vagues tout le temps. Et peut-être à la place de ça, voir comment être continuellement à la fois tranquille et essayer d'être en contact avec peut-être quelques petites choses qui seraient de l'ordre de la permanence, mais dans un rapport de flux qui fait qu'on est toujours en train de sentir tout ce qui est en train de se moduler tout le temps, pour être plus jamais dans une espèce d'illusion de stabilité qui fait qu'on s'endort sans vigilance, mais plus non plus dans un endroit dans un état d'urgence, de peur et de panique qui fait que... Voilà, essayer d'être attentif en continu, en fait. Je dirais. Je ne sais plus d'où on est parti pour que j'en arrive à dire ça. Si des gens, de l'attention des gens, et du coup, c'est ce qui se partage aussi, parce que je crois que si on est suffisamment à arriver à être attentif en continu, cette attention-là, elle va appeler l'attention des autres gens à être aussi attentif en continu. Et on aura été ensemble un temps en train d'écouter le monde, de vivre le monde, et puis d'être un bout du monde. Ça, c'est joli, quand même.
Par les temps qui courent, à quoi tenez-vous ?
Aux branches.
Par les temps qui courent, dans quel ciel nous suspendre ?
Oh, le ciel !
Par les temps qui courent, avez-vous peur ?
De moins en moins.
Bravo. Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h. En attendant, sur France Culture, quand vous voulez, à la page de l'émission. Et quant à moi, je réponds @MarieRicheux, tout attaché sur Twitter. J'ai plus peur.